Mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais même pas les inventions de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Aujourd'hui, c'est une spéciale animale. Et oui, les animaux sont nos amis. Et on va voir ensemble à quel point ils peuvent être intelligents, dangereux, semblables à nous, les humains.
On a aussi inventé et écrit un conte des origines rien que pour vous. Vous allez voir, c'est génial. Mais pour commencer, c'est Amalia et Paco. Bienvenue et c'est parti pour Question pour un cornichon.
Bienvenue sur Question pour un cornichon. Aujourd'hui, émission spéciale animaux. Est-ce que vous êtes prêts pour la première manche avec Paco ?
Salut les cornichons ! Et pour la première manche, on va vous parler des espèces en danger. Première question. Mes cornes ne sont pas à vendre. Je suis un animal qu'on trouve en Afrique ou en Asie, connu pour avoir deux cornes sur le bout du nez. Les braconniers réduisent mes cornes en poudre blanche, rendue comme une recette miracle pour les cheveux ou pour les ongles. Je suis...
Rhinocéros.
Et une petite précision. Il ne reste qu'entre 225 et 400 rhinocéros de Sumatra. Vous vous rendez compte, c'est scandaleux.
Deuxième question. On utilise ma peau pour faire des manteaux. Je vis essentiellement sur le continent asiatique. Je suis connu pour être le personnage du méchant Serkan dans le livre de la jungle. Je suis...
La panthère.
Oh. Oui, je sais, le tigre.
Et figurez-vous qu'il ne reste qu'entre 5000 et 7000 tigres en Asie. C'est peu comparé aux êtres humains qui sont 4,5 milliards sur ce continent.
Merci Amalia. Troisième question. On peut dire que je déteste les soucis. Pourquoi ? Car je suis péché pour ma chair, aussi pour ma peau et mon crâne. Je suis un mammifère qui mesure entre 15 et 25 mètres. Je peux être pleu ou un poche. Je suis...
La baleine.
Et on sait que par rapport aux années 2000, il y en a à moitié moins et elle continue à être chassée en Norvège et au Japon.
Merci Paco et Amalia pour toutes ces infos. Prenons soin des animaux, préservons leur milieu naturel et leur mode de vie. D'ailleurs, les rhinocéros, ça a une grande corne et une petite et c'est pour ça qu'on les aime.
Eh oui, Ethan. Les hiboux, ça tombe sa tête presque à 360 degrés.
Et les crocodiles de longtemps.
Et les zèbres sont blancs avec des rayures noires. D'ailleurs, quand je pense à ça, je me demande pourquoi les serpents à sonnette sifflent.
À qui et pourquoi les perroquets sont si colorés?
Et comment la tortue est lente et a une carapace?
Ou alors, pourquoi les gorilles se grattent sous les bras?
Ah bah, on peut répondre à ces questions en inventant un conte des origines. C'est des contes qui expliquent d'une façon imaginaire comment ou pourquoi tel ou tel animal possède sa particularité. Et nous, on a décidé ensemble d'imaginer pourquoi les flamants roses dorment sur une patte. Vous savez-vous ? Allez, c'est parti !
Pourquoi les flamants roses tombe-t-il sur une patte ?
Il y a fort longtemps, quand le monde était très jeune et que les humains n'avaient pas encore colonisé la planète, il existait un oiseau qui était très sale et qui dormait assis dans la boue des marécages et des lacs salés. Cet oiseau s'appelait le flamand. Le flamand adorait manger des poissons. Il ne faisait que ça de sa journée. Des poissons et encore des poissons. Le soir, il était tellement crevé qu'il retournait sur la terre ferme pour faire un gros dodo. Le problème, c'était que son habitat, c'était les lacs salés et les marécages. Donc, tous les soirs, il se retrait dans la boue. Le matin, il se réveillait, il était toujours sale. Ses plumes blanches étaient remplies de terre et d'insectes, de ses pattes à son bec. Un jour, alors qu'il pêchait, il rencontra le poisson clown. Ceci lui dit
« Bonjour, saleté. Pouvez-vous ôter votre bec dégoûtant de mes sublimes nageoires oranges ? Regarde comme je suis beau avec mes couleurs vives. Il faudrait que tu te prennes un peu soin de toi en te lavant plus souvent. »
Même s'il avait mangé du poisson toute la journée, il alla se coucher le ventre plein, mais l'esprit pas serein. Il repensait au conseil du poisson clown, mais il se vautra comme tous les soirs dans cette bonne vieille boue des marécages. Un autre jour, alors qu'il pêchait encore et toujours, le flamand qui cherchait un nouveau coin de pêche aperçut un animal étrange, rouge flamboyant avec des pinces comme des rasoirs. C'était un homard. Le flamand l'interpella.
« Comment fais-tu pour être aussi élégant, tout comme les poissons clowns que j'ai croisés l'autre matin ? Tes couleurs sont sublimes. Peux-tu me donner un conseil pour que je sois aussi majestueux que vous ?»
Le homard lui rétorqua.
« Il faudrait juste que tu te laves plus souvent, je suppose. »
Le soir, même si comme d'habitude, avec tous les poissons qu'il avait mangés, il était calé, il avait l'esprit préoccupé. Il pensait au conseil de ce bon vieux homard. Mais encore une fois, il se vautra dans sa boue favorite. Le lendemain matin, quand le flamand se réveilla, il était encore tout sale. Il regarda tous les autres flamands, qui étaient aussi tout crado. Il partit voir le syndicat des flamands et fait part des problèmes de boue qui concernaient tous les flamands roses. Une énorme manifestation de flamands s'organisa. Dans tous les lacs, on les entendait crier
« On est à bout, on veut plus dormir dans la boue, on en a marre d'être dégoûtant, on voudrait être élégant. On est à bout, on veut plus dormir dans la boue, on en a marre d'être dégoûtant, on voudrait être élégant. »
La manifestation dura toute la journée. Et comme d'habitude, tous les flamands se couchèrent dans la boue. Pendant que tout ce petit monde dormait, le dragon des eaux salées, qui s'appelait Jean-Philippe, avait entendu les revendications des flamands. Comme il avait de la magie en lui, il imagina une solution pour que les flamands ne soient plus de gros dégoûtants. Quand c'est magique, on peut faire ce qu'on veut. Le lendemain, quand le flamand se réveilla, il se sentit différent. Il baissa les yeux et remarqua qu'il dormait sur une patte et qu'il n'avait plus ni les fesses dans la boue. En relevant la tête, il remarqua que tous les flamands dormaient sur une patte et qu'ils avaient tous de belles plumes roses. Voici pourquoi les flamands sont roses et qu'ils dorment sur une patte.
En vrai, ils dorment sur une patte pour éviter d'avoir froid. Ils changent de patte donc pour se tourner.
Mais on préfère notre histoire de manifestation car c'est plus drôle.
Quelle merveilleuse histoire, n'est-ce pas ? Bon, les flamands qui dorment sur une patte, c'est étrange. Mais moi, j'ai plus bizarre encore. Une chauve-souris qui tombe amoureux d'un parapluie. Allez, on s'écoute Thomas Fersen.
Et une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris émet un parapluie, émet un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit le balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris émet un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris émet un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie.
Une chauve-souris. Super cette chanson. Bon, on vous a dit en début d'émission qu'on était proche des animaux. Mais vous n'avez pas idée à quel point nous, les êtres humains, nous avons chacun un animal totem. Quel est le vôtre ? Vous pouvez facilement faire le test sur Internet en répondant à quelques questions.
Je vais dire l'animal totem de Paco. Pas de doute, ton animal totem est cet oiseau fascinant, le colibri. Comme lui, tu symbolises la joie de vivre et la légèreté. Tu ne laisses pas la place à la négativité. Ta sagesse permet d'égayer ton humeur, même quand le moral n'est pas bon. Ta devise, le positif attire le positif, malgré sa petite taille. Cet oiseau fascine par sa force à parcourir de grandes distances ou à voler le reculon. Comme lui, tu sais répondre à toutes les exigences, exécuter des tâches fastidieuses. Grâce à ta résilience, ta sensibilité et une grande force pour toi, si ta devise de bien l'utiliser, sinon elle peut vite devenir un fardeau. Moi, mon animal totem est l'éléphant. L'éléphant a beau être costaud, solide et endurant, cela ne l'empêche pas d'avoir du charme. C'est un animal à la fois attachant et puissant, qui incarne des qualités auxquelles vous êtes sensible. Vous appréciez en lui cette force tranquille qui à tout moment peut se réveiller, rien ne l'effraie. Il force le respect, ses caractéristiques lui confèrent et présence que personne ne peut ignorer car il occupe l'espace et en même temps il a un aspect rassurant avec son côté barbare. Votre idéal, n'auriez-vous pas l'impression parfois d'être un peu transparent, de manquer de poids dans la vie des autres, peut-être en certaines timidités,
vous empêche-t-elle d'attirer le regard de force, l'intention ? Prenez de l'endurance, imposez-vous davantage, inspirez-vous de votre animal totem pour réveiller votre confiance en vous et mélangeant à part égale votre pouvoir, sa séduction, votre combativité et votre détermination animale.
Moi, mon animal totem est le loup. À la fois solitaire et en meute, le loup est un animal intelligent, puissant, chez qui l'instinct semble occuper la place importante. Il incarne le côté animal de l'homme dans son aspect le plus noble. Toi, Vincent, c'est celui qui fait l'émission avec nous. Ton animal totem serait le papillon. Léger, aérien, raffiné, le papillon incarne la subtilité, la grâce. Il se nourrit en butinant les fleurs. Lorsque notre regard se pose sur lui, petit ou grand, nous sommes émerveillés par ce spectacle. Il invite au rêve, à l'imagination, très sensible à la poésie de vie, au charme des paysages. Vous éprouvez le besoin de décoller du quotidien pour laisser libre cours à votre sensibilité et votre intuition. Si vous pourrez, vous aimeriez réaliser des rêves un peu fous qui vous permettent d'oublier la pesanteur et la routine et des soucis de tous les jours.
Vous voulez que la chenille qui sommeille en chacun de nous devienne papillon ?
Ah, ça, c'était tout, moi. Vraiment, cette description...
Bon, maintenant que vous avez tout sur nous, on va continuer à apprendre des choses sur les animaux et surtout, lesquels sont les plus dangereux.
Avec Amalia, on va vous faire un top 10 des animaux les plus dangereux.
En 10, il y a le lion, qui tue 200 personnes par an.
En numéro 9, il y a l'hippopotame, qui tue 500 personnes par an.
En 8e position, il y a l'éléphant, qui tue 600 personnes par an.
En 7e, il y a le crocodile qui tue 1000 personnes par an.
En 6e position, il y a le scorpion qui tue 3300 personnes par an.
En 5e position, il y a la punaise de l'Itriatomina qui tue 10 000 personnes par an.
En 4e position, il y a le chien, la rage, qui tue 59 000 personnes par an.
On arrive sur notre top 3 avec le serpent qui tue 138 000 personnes par an.
En deuxième position, il y a l'homme qui tue 400 000 personnes par an.
Celui que vous attendiez tous, le numéro 1, il y a le moustique qui tue 725 000 personnes chaque année par la propagation de maladies telles que le paludisme.
Alors, car à vous restez sur vos cartes avec certains animaux. D'ailleurs, si vous croisez un lion dans la rue, fuyez. En tout cas, on s'écoute ensemble. Le lion est mort ce soir de Powwow.
Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les âmes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort. ce soir.
Awimboé, 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 Awimboé.
Mais au fait, on n'a pas parlé de l'intelligence des animaux.
Ah oui, tu as raison, c'est Elliot notre spécialiste.
Moi je suis un spécialiste des animaux intelligents. Je vais vous les présenter tous. Le chimpanzé, le pigeon, l'éléphant, le perroquet gris du Gabon, le dauphin, l'orang-outan, le corbeau, la pieuvre, le rat, le cochon. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, pourquoi le rat ?
Ce rongeur particulièrement social est aussi très intelligent. Il est ainsi capable de retrouver son chemin dans un labyrinthe, de mémoriser un itinéraire et d'effectuer des tâches complexes. Il comprend également le langage verbal et non-verbal.
Pourquoi le cochon ?
Ces animaux seraient hautement sensibles, habiles, curieux et intelligents. Ils savent en effet résoudre rapidement des problèmes et utiliser l'aide d'objets. Des études montrent également qu'ils savent induire leurs congénères en erreur lors de recherches de nourriture, les mettant sciemment sur une fausse piste pour avoir une plus grosse part.
Je croyais que les pigeons, ils étaient bêtes. Pourquoi ils sont intelligents, les pigeons ?
Cet oiseau comprendra les concepts de temps et d'espace. Il reconnaît également son reflet et possède une grande mémoire. Lui qui reconnaît des personnes et des endroits des mois, voire des années après.
Ah oui, c'est vrai que les éléphants ont une bonne mémoire.
On connaît tous cette expression « avoir une mémoire d'éléphant » qui signifie « avoir une grande mémoire ». Une réputation que le pachyderme n'a pas volée, lui, qui possède le plus gros cerveau de tous les animaux terrestres avec environ 5 kg. Ces grands mammifères possèdent une vie sociale très complexe. Ils sont notamment connus pour pleurer leur mort. La troupe d'éléphants se réunissant autour de la dépouille de l'animal décédé, le touchant longuement avec leur troupe. Même des mois plus tard, ils reviennent sur les lieux, se réunissant de nouveau autour, touchant les ossements. D'autres questions ?
Et pourquoi tu es malin comme un singe ?
Les chimpanzés font partie de nos plus proches cousins, eux qui partagent 98% d'ADN avec les humains. Ce sont des animaux particulièrement évolués et intelligents. Ainsi, ces grands singes ont conscience d'eux-mêmes, capables de se reconnaître dans un miroir. Ils seront aussi capables de juger l'intention des autres et de réagir en conséquence. Comme montrer du ressentiment, ils savent aussi fabriquer et utiliser des outils et transmettre leur culture aux générations suivantes. Ils sont aussi capables de se soigner, utilisant par exemple de l'écorce pour se purger des parasites. Enfin, ils apprennent de leurs erreurs. Ils ont la capacité de reconnaître ces mots humains ou apprendre le langage des signes.
Merci, docteur. Elliot.
Merci pour Elliot, j'ignorais tout ça.
Bon, ce qui est sûr, c'est que les animaux sont heureux en liberté et dans leur milieu naturel. Dans un zoo, ils peuvent être malheureux. Et Aldebert et Grand Corps Malade nous le chantent dans la chanson « Joli zoo ».
J'ai 3 ans, je m'appelle Simba, je suis le fils du lion. Pas vraiment l'enfant roi, moi j'ai grandi en prison. On dit en captivité, mais ça va, ça se sent pas. Même si toute la journée, mon papa fait les mêmes 100 pas.
Ça doit être l'été, y a parfois du soleil. Les rayons de ce dernier viennent frapper ma gamelle. La nuit sous la voie lactée, avec les collègues animaux, on se met à chanter et à rêver tout haut. D'horizon lointain, d'une vie sans barreaux, de prairies sans gardiens, de forêts, de ruisseaux. Ça paraît dingue, petit lionceau, mais c'est ta jungle. Détendu sans fin, où l'on court à nouveau, puis ce refrain, faire un beau jour écho. Ça paraît dingue, petit lionceau, mais c'est ta jungle. Joli zoo, oh, joli zoo, oh, joli zoo, oh, joli zoo, oh.
On n'est pas les plus mal lotis quand je vois les vautours d'à côté. Leur clapier est si petit qu'ils ne peuvent même pas s'envoler. Moi j'ai un décor en plastique censé me rappeler d'où je viens. Un genre de tronc d'arbre exotique, mais bon, ça ne me dit rien.
L'ours blanc, mon voisin, sur son faux bout de banquise, lui aussi voudrait bien faire un jour sa valise, il me dit.
Tu sais quoi mon ami, depuis que je suis là, j'ai la nostalgie d'un pays que je ne connais même pas.
D'horizons lointains, d'une vie sans barreaux, de prairies sans gardiens, de forêts, de ruisseaux. Ça paraît un petit lionceau, mais c'est ta jungle, d'étendue sans fin, où l'on court à nouveau, puis ce refrain faire un beau jour écho. Ça paraît un petit lionceau, mais c'est ta jungle, petit message à ta nature. Ici c'est pas la grande forme, mais nous faisons bonne figure face aux jeteurs de pop-corn.
Flamant rose à grise mine, serré comme des sardines, panthère aux idées noires, éléphant sans mémoire, kangourou qui s'encroûte, orang-outan à out.
Décrépit perroquet, aux capis au piquet.
Voilà, on espère que vous serez plus gentils avec les animaux. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous pour la prochaine émission.
Bye bye les cornichons.
Au revoir.
Mercredi.
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 Mercredi.